Jean-Marie Pelt est botaniste et écologiste. Il a fondé en 1972 à Metz l'Institut européen d'écologie et enseigne la botanique et la physiologie végétale à la Faculté des sciences de l'Université de Metz. Aujourd'hui, il est très sollicité pour tous les problèmes généraux concernant l'environnement et l'écologie, comme le développement durable, le réchauffement climatique, la biodiversité, l'alimentation et la santé, les OGM et les plantes médicinales. Invité par la ville d'Antibes à parler de l'avenir des terriens, il a répondu aux questions de Jean Tonelli sur la crise mondiale.
C'est surtout la révélation d'un système très, très pervers en fait et très dévoyé qui a déclenché cette crise mondiale dont les humbles terriens ne sont en rien responsables, mais dont ils sont victimes. On est victime aussi, disons, des excès de notre manière d'être prédateur sur la planète. Et tous ces excès, un jour, on les paye. Alors nous venons d'entrer dans la phase où les factures commencent à arriver, si je puis dire. Et alors on essaye de sauver un système qu'il faut repenser, à mon avis, de fond en comble.
Justement, vous parlez de l'avenir des terriens. Vous le voyez comment, vous, cet avenir pour nous, les hommes, les terriens ?
Ben, ça dépend largement de nous. Lorsqu'on écoute la télé, la météo, on dit c'est bon pour la planète. Bon, voilà une expression qui typiquement ne veut rien dire du tout. La planète se fiche éperdument de ce qu'on fait dessus. Elle tournera autour du Soleil encore 4 milliards et demi d'années. Il y aura des hommes dessus, on n'aura plus. Il faudrait dire c'est bon pour nous qui sommes les habitants de la planète. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que nous sommes capables de tout casser ? Je crois que oui. Je crois qu'on en est capable. Mais si nous sommes là sur le pont, c'est pour éviter qu'un tel désastre se produise et pour faire prendre conscience de notre grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants et des enfants qui suivront. Parce que ça, c'est tout à fait nouveau. Nous sommes, pour la première fois dans l'histoire, une génération qui a pris conscience qu'elle a des responsabilités par rapport aux générations futures. Ça n'est jamais arrivé.
Oui. C'est vrai qu'en effet, tout d'un coup, on a le sentiment que cette planète est toute petite en définitive, qu'elle n'est pas illimitée, que ses ressources ne sont pas illimitées et qu'il faut apprendre à gérer. Apprendre à gérer pour que les générations futures puissent profiter d'une vie, somme toute, agréable.
Tout à fait. Et c'est ce que devrait nous apprendre la crise. Alors va-t-elle nous l'apprendre ? Je dois dire que je suis très, très mécontent du fait que le président de la République relance le nucléaire à fond, alors qu'il faut aller à fond dans les énergies renouvelables, ce que font les Américains, ce qui crée beaucoup plus d'emplois, donc on est complètement à côté. J'étais très fâché ce matin en apprenant ça, encore plus fâché parce que j'ai appris qu'il y en aurait trois et pas deux, ce qui vraiment est totalement déraisonnable, puisque tout le monde, y compris tous les experts, le disent. Alors on ne va pas dans la bonne direction. Nous devrions, pour le coup maintenant, nous inspirer de ce que fait M. Obama, qui a déclaré il y a quelques jours que les énergies renouvelables, ça sera plusieurs millions d'emplois. Voilà, ça c'est les instructions qu'on peut tirer de la crise. Si on veut vraiment continuer comme avant, alors on se casse à la figure. Les énergies renouvelables, ce sont des petites unités disséminées, c'est petit. Dans mon dernier livre qui s'appelle « La raison du plus faible », je montre comment en période de crise, les grandes crises de l'histoire de la vie où des millions d'espèces, des milliers en tout cas d'espèces ont disparu, ce sont les petites espèces qui n'ont pas disparu. Les dinosaures ont disparu, les petits mammifères qui étaient gros comme des souris n'ont pas disparu. À la grande époque du Permien, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années, les énormes mastodontes amphibiens, qui étaient des super grenouilles, si je puis dire, ont tous disparu, et les tout petits n'ont pas disparu. Voilà que nous faisons le contraire. Je suis désolé que l'on fasse le contraire, parce que regardez ce qui se passe, l'automobile, les gens ne veulent plus de grosses voitures, ils veulent des petites. Je suis Lorrain, la Smart n'a jamais si bien marché. Regardez ce qui se passe dans la grande distribution, on réduit la voilure, on fait des petites supérettes, on les met dans les centres-villes. Regardez ce qui se passe à Dubaï, la tour d'un kilomètre de haut, on ne la fait pas. C'est dommage que nous ne soyons pas assez subtils pour comprendre que dans le domaine de l'énergie, il faut faire pareil.
Je crois qu'en France, il y a un esprit jacobin qui domine et le centralisme est important. On parlait tout à l'heure d'Internet. Internet, c'est complètement ouvert au monde. On nous avions inventé le Minitel. très centralisé. Et on continue. Les centrales nucléaires, c'est de l'électricité centralisée. Le solaire, le renouvelable, c'est, comme vous dites, dispersé. Ça ne nous convient pas aux Français. C'est terrible, ce jacobinisme.
Terrible. C'est vraiment une faille effroyable de notre pays. Si vous regardez le commerce extérieur de la France, vous vous apercevez qu'on est dans un déficit énorme et que les Allemands ne sont pas en déficit. Pourquoi ? Parce que la France centre toute son activité industrielle sur les Airbus, sur les centrales nucléaires, sur les TGV, et puis c'est fini. Et puis pour tout le reste, on est totalement nul. Je me suis laissé dire tout récemment que dans les laboratoires de recherche de biologie, enfin tous les laboratoires, il n'y a plus une installation scientifique qui soit fabriquée en France. Ça n'existe plus. On achète tout à l'étranger. Alors c'est effectivement la conséquence du modèle français, jacobin. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Je crois que c'est une grande faiblesse de notre pays.
Reparlons de votre livre. Si je comprends bien, nous, quand les dinosaures se sont partis de la Terre parce qu'ils ont été détruits, l'homme était une toute petite chose. Non, mais il a pu arriver et vivre parce que ces grosses bestioles sont mortes et lui ont laissé la place. Et aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas devenus la grosse bestiole qui risque de mourir parce qu'elle ne se rend plus compte de rien?
C'est exactement ça. Ça va vous résumer en une phrase toute la problématique. C'est que nous sommes devenus de très redoutables prédateurs, de très gros prédateurs. Nous pensons que l'avenir, c'est la compétition à outrance entre nous. Je lisais dans un éditorial de la presse nationale hier cette phrase typique: la compétition est le gage et le moteur du progrès. Non. Ben non, 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 pas du tout. Il y a la coopération, il y a la solidarité, il y a l'équité, il y a l'alliance avec la nature, il y a le respect des diversités, il y a tout ça, ce qu'on appelle l'humanisme, c'est autre chose. Et dans la nature, c'est ça le thème du livre, la raison du plus faible. Dans la nature, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme on pense. Et que cette projection que nous faisons sur elle et sur nous du plus fort et du plus faible, c'est faux. Nous sommes tous un peu forts, un peu faibles. Et on peut multiplier, j'ai 50 exemples dans le bouquin, les exemples où vous voyez que ça se passe pas comme ça. Et que la coopération et la solidarité dans la nature, c'est extrêmement important. Et dans la société aussi. D'ailleurs, le même mot est utilisé en écologie et en économie. On parle de mutualisme en écologie et de mutualité en économie. Nous avons des mutuelles d'assurance, nous avons des mutuelles de santé. Ce n'est pas des entreprises capitalistes. Ça marche sur le principe de la solidarité, ça marche très bien, et personne ne sait que ça représente 13% du produit intérieur brut. Mais personne ne le sait, parce qu'on croit qu'il n'y a que le modèle, j'allais dire, hyper-capitaliste, grande multinationale qui fonctionne. C'est faux. Les petites unités disséminées et nombreuses, ça fonctionne très bien aussi, et ça ne détruit pas.
On a vu l'essor du microcrédit dans ce domaine, on a vu plein de choses comme ça. Pour revenir à votre livre, vous me dites qu'il y a plein d'exemples. Quel est celui qui vous paraît le plus beau de cette coopération ou de cette survie du plus faible par rapport à la nature ?
Le plus beau, c'est celui des petits champignons dont les filaments microscopiques s'installent à l'extrémité des toutes petites racines des arbres et qui apporte à l'arbre ce que lui n'est pas capable de tirer dans le sol, c'est-à-dire surtout les phosphates qui servent à l'arbre à fabriquer l'ADN, faute de quoi il n'y aurait pas d'ADN, il n'y aurait pas d'arbre et il n'y aurait donc pas de nature. Donc ces petits champignons qui sont microscopiques sont absolument indispensables. Alors ça va dans les deux sens, parce que l'arbre apporte aux 10 petits champignons de la matière végétale, parce que le petit champignon est dans le sol, il fait nuit, il n'y a pas de chlorophylle, c'est pas fabriquer la matière végétale, c'est l'arbre qu'il fabrique pour lui. Et alors on a découvert il y a quelques années, c'est tout récent, que ces microfilaments mettent en relation les racines de plantes voisines, un arbre avec une herbe, un arbre avec un petit arbre. Et là, il se produit que le grand arbre puissant, qui semble écraser le petit arbre qui est en dessous, ou l'herbe modeste qui n'a pas beaucoup de lumière en dessous, envoie à travers le réseau des filaments de la nourriture au plus faible. Alors c'est les réseaux du cœur dans la nature. Voilà un exemple, il y en a comme ça plein. Enfin, celui-là est très spectaculaire.
Oui, c'est formidable.
C'est très beau.
Oui, oui. On devrait prendre des leçons pour continuer. Oui. Je crois que la dernière guerre mondiale a créé une génération de gens qui voulaient, je dirais, prendre leur revanche. Et on est passé sur des 30 glorieuses où on a consommé comme des fous, on n'a plus du tout fait attention à rien, et on s'est cru les dieux, les maîtres du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, tout ça s'estompe et on redevient solidaire parce que la crise économique fait que les familles enfin, les familles composées d'une cellule de 4 personnes, comme on le disait en sociologie, ben aujourd'hui, on retombe vers des familles plus grandes parce que se loger, c'est difficile, ainsi de suite. Donc, est-ce que cette crise qui est fort peu sympathique pour la plupart d'entre nous, vis-à-vis de notre survie de terrien, risque pas de nous y aider?
Mais je pense que c'était inévitable. Enfin, livre après livre, ça fait maintenant des années que je dis la même chose. Il y a 30 ans, personne n'aurait imaginé qu'il n'y ait pas la division du monde entre l'Est et l'Ouest à perpétuité, vous vous rappelez? Oui. Et puis, le communisme s'est effondré complètement. Et j'ai toujours dit qu'on pouvait imaginer, ce n'est pas forcément souhaitable, que le capitalisme connaisse des crises analogues et s'effondre aussi. C'est exactement ce qui se passe. C'était tout à fait prévisible. Pourquoi? Parce que quand on va à l'excès, la vie régule. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Dans la nature, tout est régulé. Et dans l'économie, on a dit pas de régulation, pas de réglementation. On a appliqué cette fameuse histoire de la main invisible qui se résume de cette manière-là. Chacun cherche son profit personnel, égoïste, individualiste, et la recherche collective par chacun de son profit personnel, ça tourne tout seul. Mm-hmm. La main invisible, ouais. C'est faux. Voilà, c'est pas vrai. La preuve, c'est que c'est comme ça que ça a marché, et tout s'est effondré. Alors la nature, si elle tourne en effet, c'est parce que tout est régulé, et qu'il y a, entre guillemets bien sûr, une profonde intelligence dans la nature. Alors, j'ai entendu M. Soros, qui est un homme remarquable, puisque c'est un grand capitaliste, qui, paraît-il, n'a jamais fait un mauvais placement à la bourse. Si vous êtes copain avec lui, vous lui demandez quelle action il faut prendre, vous êtes sûr de gagner. Alors, il a dit ceci, il a dit, à main visible, j'ai jamais cru. L'absence de régulation, j'ai jamais cru. Par contre, je crois que, dans la nature, on sait qu'il faut réguler dans la nature. Et dans la société, on ne le sait pas encore. La preuve, c'est que la nature est plus intelligente que nous. Il a dit ça à la télé il y a peu de temps, je trouve ça génial. Oui. C'est tout à fait vrai.
Est-ce que, par exemple, pour nous, à l'heure actuelle, il y aurait des choses à faire indispensables pour qu'on prenne ce virage de penser plus aux générations futures dans notre quotidien? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez?
Ben, d'abord, des comportements plus éthiques, sans doute plus sobres aussi dans la manière de ne pas gaspiller, d'un souci plus grand de partage par rapport aux pays du Sud, d'une régulation aussi dans ce qu'est l'équité sociale. Et puis, enfin, moi, j'étais à fond partisan des énergies renouvelables, des économies d'énergie. Bon, je suis désolé de ce que je vois, désolé. Alors, on a un président de la République qui est un génie de la communication. Il a le génie de la communication. Reconnaissons-lui ses mérites. Il a, bien sûr, des mérites. Il sait contribuer à la paix quand il faut. Mais vraiment là, non. Là, il est complètement à côté de la plaque. Et ça n'est pas à EDF qu'il faut faire plaisir en disant, voilà, on vous donne une centrale de plus qu'elle n'a pas besoin. Non. Puisque tout le monde le dit. Tous les économistes le disent. Il y a une unanimité. C'est seulement pas parce qu'ils ont fait du lobbying. Oui.
On n'en a pas besoin. Et en plus, elle est difficile à construire. Il y a du retard. Il y a des gros problèmes. En fait, le problème de Monsieur Sarkozy, qui est un hyper communicant, comme vous le faisiez remarquer, c'est que la communication, bah, c'est un peu éphémère. Et il a fait un grand show avec le Grenelle de l'environnement. Qu'en reste-t-il?
Alors, je ne réponds pas aujourd'hui comme j'aurais répondu avant-hier. J'étais très content du Grenelle de l'environnement. Je croyais qu'on avait vraiment mis la balle dans le filet. Et aujourd'hui, je dis, on a été eu. Voilà, ben je suis désolé, désolé. Et je le dirai partout. Je le dirai partout. Mais si je suis tout seul à le dire, je le dirai tout seul. Il fallait pas faire ça.
Oui, parce qu'on a eu beaucoup d'espoir, oui. On y a cru, oui. Beaucoup de gens s'y sont investis, oui. On a pensé que malgré les lobbying, justement, on y arrivait, et maintenant on vient de constater que c'est pas vrai.
Voilà, le triomphe du lobby français, EDF en l'occurrence, c'est très malheureux. Je voyais hier un membre de ma famille qui travaille sur le solaire, et qui m'a dit hier soir, il m'a dit, tu comprends, nous c'est pour le discours qu'on travaille. EDF s'en fout. J'ai dit oui, j'avais compris, c'était pas la peine de me le dire. Je le savais. C'est pas bien. Voilà, nous devons protester. Nous sommes des citoyens et nous devons nous exprimer. Pas forcément avec des banderoles en hurlant dans les rues. Bon, ça, c'est, chacun s'exprime à sa manière et tout est respectable. Mais on doit s'exprimer démocratiquement et sur des choix aussi importants, il faudrait vraiment des débats démocratiques, des vrais débats.